C'est un thème difficile parce que Pranzini, bien sûr qu'on en parle quand on a l'occasion de parler de la petite Thérèse, mais je trouve que dans le contexte actuel, avec tout ce qui se passe, ça prend une ampleur beaucoup plus grande et j'avoue que je le vois tout d'un coup d'un autre œil. Et j'ai relu ce livre de Pierre Bouchardon qui était un grand responsable dans les cours, il était juge, procureur, etc., etc., qui a relaté donc toute l'histoire de Pranzini. Eh ben, faut s'accrocher, hein. Je vais essayer d'en parler un petit peu. Je me suis posé la question, je me suis dit, voyons, est-ce que je ne fais que l'effleurer? Parce qu'en ce moment, on dit que c'est pas bien non plus de trop parler des criminels. Après tout, pourquoi pas l'appliquer à Pranzini? Mais en même temps, il a eu une telle importance dans la vie de Thérèse qu'on ne peut pas passer cet épisode sous silence. Alors finalement, bon, on va en parler. Et puis on parlera d'un deuxième personnage qui s'est converti aussi. J'ai choisi Paisy. Vous connaissez ? Je dis rien, je garde la surprise pour après. Mais le troisième, hélas, je crois que vous le connaissez. C'était pas facile à traiter non plus. C'est Rudolf Höss, le commandant de Auschwitz-Birkenau. Vous allez voir. En tout cas, ce qui est toujours important chez Thérèse, c'est de resituer le contexte dans lequel elle dit ça et de resituer le contexte de son époque. Peut-être il y en a parmi vous qui étaient là déjà à l'autre carrefour. Je l'ai dit, mais c'est toujours bon de le répéter. Parce que on comprend mieux les choses de l'intérieur. Et Thérèse n'a pas eu un parcours linéaire comme ça, tout plat. Tout s'est pas fait d'un coup de baguette magique dans sa vie. Elle a beaucoup cheminé avec beaucoup de douleur aussi. Bon, mais de grâce aussi, mais comme chacun un petit peu, hein. Elle a beaucoup changé au moment de la mort de sa maman, survenue le 27 août 1877. Et à ce moment-là, alors qu'elle était très enjouée, c'était une petite fille pleine de vie, têtue aussi, oulala, elle pouvait se rouler par terre quand les choses n'allaient pas à son idée. C'est très important de voir qu'elle est devenue hypersensible. Elle pleurait, et après elle pleurait d'avoir pleuré. Bon, elle ne supporte pas d'être séparée des siens. La mort de la maman avait ouvert une telle blessure dans son cœur, ainsi que l'entrée au Carmel de Pauline, la deuxième Martin, qu'elle appelait ma deuxième maman. La voilà partie au Carmel. Et c'est là qu'elle tombe malade. Je passe à grands traits, parce que je suis sûre que ces jours-ci, vous avez eu l'occasion d'entendre des choses sur la vie de Thérèse. Et c'est là que cette maladie nerveuse, aujourd'hui, on peut la diagnostiquer plus sûrement, c'est vraiment une névrose de l'enfant, une dépression de l'enfant, eh bien voilà qu'elle est guérie par le sourire de la Vierge Marie, mais progressivement encore, hein. Il y a encore d'autres étapes. Une des plus grandes étant, c'est celle qu'elle appelle elle-même la grâce de ma complète conversion, la nuit de Noël 1886, où elle reçoit la grâce d'être guérie de cette fichue hypersensibilité. La grâce de Noël survient donc 25 décembre 86. En 87, elle va recevoir une autre grâce dans la cathédrale de Lisieux. On dit qu'elle a reçu là sa véritable vocation missionnaire. Parce que qu'est-ce qui se passait? Elle était tellement sensible qu'elle était un peu comme un petit chien, comme Falcon, qui tourne autour de lui-même après sa queue. Et qui n'en finit pas. Or là, elle a reçu une vraie grâce de maternité spirituelle déjà, et elle dit « Je sentis la charité entrer en mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis lors je fus heureuse. » Donc elle se décentre d'elle-même, si vous voulez, donc elle a 13 ans. Et en 87, alors, dans la cathédrale, elle voit une image qui dépasse de son bréviaire, le Christ en croix, et elle se laisse littéralement transpercer par la même phrase qui a transpercé plus tard Mère Teresa, le « J'ai soif de Jésus ».« J'ai soif que tu me donnes des âmes, j'ai soif de... »